c'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. La saison estivale et touristique approche à grands pas. Nous allons parler des animations gratuites que nous proposons tout l'été en compagnie de Florence Boissier, chargée de mission accueil au Parc National. Et nous évoquerons également l'accueil au sein de la Maison du Tourisme et du Parc de Florac. Et pour la cinquième année consécutive, le parc recrute des saisonniers de terrain qui iront à la rencontre des visiteurs sur les lieux les plus fréquentés, et notamment les estives, pour faire de la sensibilisation en raison de la présence de troupeaux et de chiens de protection. Ils sont avec moi, il s'agit de Julie, Félix, Gabriel et Mila. Bonjour à toutes et tous.
Bonjour. Bonjour.
Alors comme je le disais, on va commencer par les animations. Alors Florence, cet été encore, ce sont 135 animations gratuites qui sont proposées sur l'ensemble du territoire. Alors bien entendu, on n'est pas là pour les lister, mais voilà, quelles sont les thématiques abordées, les nouveautés pour cet été ?
Alors les thématiques, elles concernent bien sûr ce sur quoi travaille le parc ou ce que le parc est en charge de protéger, parce que la grande majorité des animations sont portées par des agents du parc, souvent avec des partenaires, mais c'est eux qui proposent les thématiques et les parcours, les balades, etc. Donc c'est vraiment un programme entièrement lié aux missions du parc.
Et donc j'ai relevé donc, hein, par rapport à ces animations, on a une quarantaine de rendez-vous, le parc Quesaco. Alors Quesaco, que cette animation ?
Oui, ça c'est un format d'animation un petit peu spécifique et c'est dédié à tous ceux qui n'ont pas spécialement envie de s'inscrire ou de passer trop de temps sur une animation, mais qui sont quand même un peu curieux de découvrir les patrimoines du parc, de découvrir les missions du parc. Et donc il s'agit plutôt d'un stand qui est installé dans un endroit fréquenté, pour le coup vraiment partout sur le territoire du parc. Et là se trouve Elsa, notre animatrice, qui va proposer des activités ludiques. Donc c'est très adapté au public famille, mais pas que. Voilà, elle a toute une foule d'activités comme ça qu'elle peut proposer aux personnes qui peuvent choisir d'en faire une, deux, trois, de rester cinq minutes, de rester une heure. C'est un format très flexible, pardon, et très libre.
Très bien. Et on a aussi, ben, elles reviennent chaque année, hein, notamment depuis la labellisation de réserve internationale de ciel étoilé. Cette année encore, c'est une vingtaine d'animations nocturnes. Donc ça, ce sont des animations qui sont très appréciées. Hein.
Oui, toujours, d'autant que l'été, c'est très très agréable de faire des animations plutôt en soirée. Et c'est aussi intéressant d'entendre parler de l'environnement nocturne de façon générale, parce que ça peut être des animations d'observation du ciel, mais qui peuvent être couplés aussi à des animations autour de la faune nocturne. Enfin, tout ce qui concerne, en fait, cet environnement qu'on connaît finalement assez peu et, pour le coup, qui est exceptionnel dans le parc Réserve internationale de ciel étoilé.
Et donc, je fais un focus aussi, il y aura une éclipse solaire le 12 août. Donc, elle sera quand même partielle chez nous, on ne la verra pas. Mais il y a quand même deux soirées qui sont proposées. Donc, enfin voilà, le 12 août, n'oubliez pas l'éclipse solaire. Et autre thématique, donc cette année c'est l'année internationale du pastoralisme, donc il y a quand même un certain nombre d'animations consacrées à cette pratique.
Oui, et qu'on a voulu aussi s'adressant à une grande diversité de publics. Hein, donc bien sûr il y a la traditionnelle rencontre avec le berger, balade matinale, mais pas que. On a pas mal de propositions, notamment pour les familles, avec des jeux, des expositions, donc vraiment une programmation plutôt variée autour de ça. Et j'indiquerai particulièrement aussi le château du Castanet au bord du lac de Villefort, où va se trouver une exposition sur la thématique et donc où vont se dérouler pas mal d'animations autour de cette exposition.
Et dernière question, est-ce qu'il y aura des expositions à voir cet été ?
Oui, justement, vous pouvez...
À part celle sur le pastoralisme ?
À part celle-ci, oui, nous vous encourageons à aller au musée Cévenol du Vigan, où se trouve l'exposition des dessins de Julien Norwood, que peut-être certains d'entre vous connaissent bien, puisqu'on a réalisé des calendriers, des posters, des cartes postales, pour mettre en avant le travail qui a été réalisé autour de la flore locale et de l'occitan aussi, hein, puisque chaque fleur est illustrée par son nom occitan, qui nous révèle un peu les usages en fait traditionnels locaux. Donc elle est visible au musée Cévenol du Vigan.
Très bien. Donc je rappelle que les animations sont gratuites et généralement il faut réserver. Et si on ne vient pas, il faut prévenir. Voilà, ça c'est dit.
Oui, c'est mieux.
C'est mieux. Deuxième chose, l'accueil est renforcé en période estivale. Donc notamment, c'est le cas à la Maison du Tourisme et du Parc. Donc là, les saisonniers sont arrivés, ils sont prêts.
Oui, ça y est, ils sont prêts. La Maison du Tourisme et du Parc est mutualisée avec l'agence d'attractivité. Donc on a plein de monde, plein de saisonniers pour vous accueillir sur différentes compétences. Pour ce qui concerne les agents du parc, ils sont 4 en plus de l'agente permanente, ce qui permet d'ouvrir 7 jours sur 7, le dimanche compris.
Donc pour la cinquième année, donc 7 saisonniers de terrain arpenteront les sites les plus fréquentés du territoire pour sensibiliser les visiteurs. Donc ils sont arrivés hier, un certain nombre, il n'en manque pas beaucoup, mais ils ne sont pas tous autour de la table. En tout cas, je vais vous demander à chacun de vous présenter.
Du coup, je m'appelle Julie. Qu'est-ce que tu veux savoir ?
Un petit peu, je ne veux pas tout savoir, juste,
oui,
juste que tu me dises d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a motivée à candidater pour être saisonnier, rapidement ton parcours.
D'accord, ok. Moi je viens de Bretagne. J'ai été un petit peu bergère l'an dernier, puis j'ai fait la Géna il y a quelques années, donc voilà, le monde de l'agriculture et du naturalisme, je suis dedans depuis plusieurs années, donc c'était assez logique pour moi de revenir ici et de passer la saison sur le Causse, parce que c'est un territoire que j'aime bien, surtout pour les oiseaux. Voilà.
Bonjour, moi c'est Gabrielle, donc moi je suis originaire des Alpes de Haute-Provence, mais après j'ai fait mes études à Montpellier, j'ai fait une licence d'écologie, et après j'ai enchaîné avec un master. Et donc moi, je vais être sur le secteur du Mont Aigoual. Et ouais, j'étais super motivée de faire cette saison, d'arpenter les sentiers, etc. Et j'ai trop hâte.
Moi, je m'appelle Félix. Je suis berger, fromager, salarié sur des fermes de montagne ou en alpage depuis à peu près 6 ans. Et j'ai eu envie de remettre un peu un pied, on va dire, dans l'éducation à l'environnement et l'édu-pop, qui était mon métier auparavant. En postulant à ce poste au parc, qui plus est lors de l'année internationale du pastoralisme, je me disais que c'était une belle manière de parler de mon métier et puis d'aller à la rencontre des usagers et des randonneurs du parc.
Tu connaissais les Cévennes ?
Ouais, moi j'ai fait je connais les Cévennes depuis que je suis ado, en rando et des choses comme ça. Et puis j'ai fait un stage au parc il y a 16 ans. Donc ça date un peu. Et tous les ans, je reviens pour faire de la confiture de châtaigne et pour la fête de la soupe. Donc je connais bien les Cévennes, ouais. Mais sinon, je suis alsacien.
Et tu seras sur quel secteur ?
Moi, je serai sur le secteur du Mont-Lozère avec ma binôme qui s'appelle Emma.
Bonjour, moi je m'appelle Mila. J'ai grandi dans le coin, pas loin de Florac, dans un petit hameau. Et je suis là... parce que j'ai donc une grande attraction pour le secteur de l'environnement et le lien avec le public. J'ai fait des études dans l'environnement et j'ai fini par un BPGEPS, éducation à l'environnement, pour avoir un contact public et avec l'éducation populaire aussi, comme Félix.
Donc vous êtes arrivé hier, vous avez commencé la formation hier. Alors comment ça se passe là ? C'est quoi le programme, le planning ?
Donc là, on a une semaine de formation ici à Florac, donc c'est le tronc commun. Et après, chaque binôme va retourner dans sa montagne et avoir une formation spécifique au secteur du binôme.
Donc Florence, là, la semaine, elle porte de formation, elle porte sur quoi
Alors, elle porte un peu sur tous les sujets sur lesquels ils vont être potentiellement interrogés. Alors, évidemment, il y a un gros focus sur la bonne connaissance du métier de berger, comment fonctionne une estive, comment fonctionne un chien de protection. Là, par exemple, ils passent la journée avec un éleveur, membre de l'IDEL, l'Institut de l'élevage, spécialisé justement dans l'accompagnement des éleveurs dans l'élevage des chiens de protection. Donc, ils vont passer la journée avec lui. On va aussi beaucoup parler de l'impact de la prédation, du rôle du parc dans ce sujet-là. Mais globalement, ils reçoivent aussi une formation plus généraliste sur la réglementation du parc, puisqu'ils vont être sur le terrain en fait en zone cœur de parc tout l'été. Donc c'est vrai que c'est important. Ils peuvent faire de l'information, de la sensibilisation sur pas mal de sujets et en tant qu'agent du parc, hein, ils ont le logo sur leur vêtement. C'est vrai que les gens peuvent venir beaucoup les voir pour des questions très diverses, à la fois quel est cet oiseau, quelle est cette fleur, où commence le cœur de parc, quelle est la règle. Voilà, donc on leur donne quand même toutes les billes possibles pour qu'ils puissent répondre au maximum des sollicitations qu'ils vont rencontrer.
Donc pour Julie et Félix, donc vous avez été berger, enfin Félix tu l'es toujours. Bon, j'imagine que pour vous, enfin voilà, je vais pas dire que ce sera peut-être un peu plus facile, mais en tout cas vous êtes déjà bien imprégné du sujet et j'imagine que vous savez déjà comment intervenir auprès du public peut-être.
Oui, après moi c'est vrai que c'était des milieux très différents, donc il y a quand même du changement par rapport à ça. Et en Bretagne on n'a pas de chien de protection pour le moment, mais ça ne saurait tarder j'imagine. Donc voilà, oui, peut-être qu'on est un peu plus... voilà, ouais. Il y a d'autres personnes aussi parmi nos binômes qui ont déjà eu des expériences de berger, donc ouais, on est assez familier de ça, en tout cas, je pense.
Bah après, c'est sûr que ouais, en tant que bergère ou berger, on est parfois confronté à des situations un peu complexes, avec que ce soit les randonneurs, les vététistes, les trailers, mais c'est malheureusement pas ce pourquoi on est embauché. Donc je trouve c'est chouette qu'il y ait... des territoires type des parcs nationaux qui embauchent des médiateurs et des médiatrices pastorales, parce qu'en fait les bergers ils sont déjà tellement au taquet pendant la journée que c'est compliqué de... Enfin moi, une de mes premières estives dans le Vercors, c'était l'année post-Covid sur la réserve naturelle nationale des Hauts-Plateaux, et clairement à peu près trois quarts de mon temps j'ai fait de la médiation pastorale, sauf que c'était pas l'intitulé de mon poste. Donc je me dis, pour des bergers qui ont déjà beaucoup de travail avec leurs troupeaux, si en plus ils doivent faire entre guillemets un peu la police, c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas faire de la sensibilisation, médiation. C'est bien qu'il y ait des personnes en relais comme nous sept, quoi. Parce que c'est déjà un métier qui est peut-être un peu idéalisé aussi par le grand public. Hein. C'est un métier quand même qui est rude, sujet aux aléas climatiques, à la prédation. Psychologiquement, ça peut être rude, la solitude, des conditions d'hébergement aussi qui ne sont pas toujours très respectueuses du droit du travail, mais ça, c'est un autre sujet. Donc en tout cas, moi, c'était un peu ce pourquoi j'ai postulé à ce poste, d'aller plus à la rencontre des randonneurs, parce qu'en tant que berger, on n'a pas toujours le temps ni l'envie, hein, selon les caractères, quoi.
Et donc là, l'idée, c'est quand vous rejoignez les massifs, c'est déjà de rencontrer en priorité justement les bergers qui sont sur les estives.
Oui, effectivement, ils vont faire le tour accompagnés par les équipes locales. Ils vont être présentés à tous les bergers parce que le contact qu'ils vont réussir à établir avec chacun d'entre eux va être assez déterminant pour que l'information qu'ils vont donner au public soit vraiment efficace. Donc s'il y a des bergers qui nous écoutent, n'hésitez pas à les contacter, ils sont là pour ça.
Et justement, quels sites hein, sont tous mais où est-ce que les visiteurs risquent le plus souvent de vous croiser?
Alors c'est souvent quand il y a des chemins de randonnée ou de grandes randonnées qui passent sur les estives, sur les secteurs d'estives. Mais parfois ils vont aussi un petit peu plus loin pour capter les flux et s'assurer que potentiellement les personnes vont passer probablement à un moment donné à proximité d'une estive. Donc c'est bien de les capter en amont. mais ils vont être essentiellement sur le sommet du Mont Lozère, sur la plaine du Tarn, sur le Mont Lozère. Côté Aigoual, ils vont être beaucoup au sommet et aussi au lac d'Épise, mais pas que, évidemment. Et puis sur le Cos, alors là, ils vont rayonner un petit peu plus, ils vont rayonner aussi du côté des vallées Sévenol un peu, du côté de Bar des Cévennes, Pébron, et aussi ils vont aussi jusque dans le Val d'Aunaise. Donc on essaye de déterminer des points un peu stratégiques pour arriver à capter les visiteurs et anticiper les interactions qui vont de toute façon finir par arriver.
Oui, parce que ça évolue, hein, c'est des secteurs qui n'étaient peut-être pas concernés au départ. Hein.
Exactement, on fait évoluer la liste des secteurs en fonction des besoins, et souvent quand des éleveurs interpellent le parc au sujet de problématiques de cet ordre-là, alors même si on ne peut pas les envoyer partout, hein, on ne peut pas les envoyer à chaque endroit où se trouve un troupeau, on essaye d'optimiser au maximum et surtout de les mettre à l'endroit où ils vont croiser le plus de monde, là où il y a le plus de fréquentation, pour qu'ils puissent être plus efficaces et mieux optimiser leur temps de présence.
Bon, j'imagine la relation au public, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà des capacités, des compétences.
Moi je sors de un an et demi là d'alternance en fait dans une ferme avec des vaches nantaises en sud Loire, et on accueillait donc des classes de la maternelle jusque au lycéen. On a accueilli aussi des sorties un peu tout public, des familles qui venaient dans les champs ou directement à la ferme. Donc pour leur parler un peu de plein de choses, la relation aux animaux, à l'environnement, l'impact de l'agriculture et comment faire attention à notre consommation de plein de manières différentes.
Et après 4 années de retour d'expérience, donc hormis la médiation pastorale, sur quoi il faut toujours faire de la prévention, à part sur la médiation sur les estives? Qu'est-ce qui revient toujours ?
Ce qui revient toujours, c'est effectivement, plus globalement, là on parle des estives, mais on pourrait parler aussi de toutes les autres activités humaines, les propriétaires. Enfin voilà, on est un parc dans lequel beaucoup d'activités se déroulent, et il est nécessaire parfois de replacer un peu les choses auprès des visiteurs, justement il faut rester sur les sentiers balisés, il faut refermer les clôtures lorsque vous y passez, concernant les règles de bivouac, par exemple, puisqu'il est autorisé de bivouaquer le long d'un GR uniquement, mais effectivement, pas dans le jardin en franchissant des clôtures et en allant sur des pâturages. Donc il y a plein de conseils comme ça aussi, de personnes qu'on doit délivrer à des personnes qui ne sont pas forcément très familières du fonctionnement d'un territoire rural comme le nôtre, et puis bien sûr l'importance aussi de faire attention au milieu, aux espèces, et ça c'est pleinement le rôle d'un parc aussi.
Et est-ce que cette année, bon là on sort d'une canicule, il y a peut-être un risque aussi accru d'incendie, il y a peut-être une vigilance qu'il va falloir apporter sur les massifs?
Oui, effectivement. Avec probablement une interdiction totale, voire des vigilances rouges qui pourraient advenir. Donc là, ils vont probablement aussi avoir un rôle d'information auprès des personnes qui circulent sur le territoire.
Vous êtes en poste jusqu'à quand, du coup ?
On est officiellement en poste jusqu'au 13 septembre, mais on ne sera plus sur le terrain à partir du 26 août, parce qu'après, il y a nos congés. Du coup, voilà, donc jusqu'à fin août, on sera sur le terrain un peu tous les jours, grâce à Mila aussi, qui est agente volante. Donc, dès qu'on est en repos, elle est là.
Et physiquement, ça va?
On peut mieux.
Ouais. Il vaut mieux.
Il vaut mieux.
L'été va être...
Va être chaud.
Va être chaud, exactement.
Très bien, je vous remercie. Et puis, bonne saison, bon courage.
Merci.
Merci. Merci.
C'est la fin de cette émission. À la prochaine.
C'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc. Séquence Parc sur le 107 FM.